partir vous propose en deux patients qui justifient la réanimation, un Covid et un non-Covid, et que vous avez plus qu'une place, qu'est-ce que vous faites ?
Toi, tu décides de claquer la porte de l'hôpital public.
Voilà, c'est ça. J'arrête parce que actuellement, c'est plus possible de faire son travail correctement. Et le fait de revoir ses ambitions à la baisse chaque jour de travail, pour moi, c'est une perte de sens. Et la façon dont je le fais me satisfait plus, donc autant changer.
Salut, c'est la base, j'y suis avec Dilatebi, hôpital public, la saturation.
Flight number 2, arriving from...
On est à Marseille, dans le 5e arrondissement, face à un bâtiment immense, l'hôpital de la Timone, hôpital public. Et juste en face, on a une grande affiche qui est posée à l'entrée. Face au Covid 2019, vous êtes formidable. Alors on a un dessin de personnel hospitalier, tous ensemble, qui forment un cœur. Et le texte dit merci à tous ces professionnels mobilisés et à tous les Marseillais pour leur soutien. Alors ici, la Timone, c'est immense. Hein. C'est deux grands bâtiments impressionnant, un pour les enfants, un autre pour les adultes. Et puis il y a même le fameux institut du professeur Didier Raoult, c'est un troisième grand bâtiment ultra moderne par rapport aux autres. Alors on est là pour voir comment les personnels de santé gèrent cette deuxième vague, sachant que ici Marseille, la région PACA, c'est la première ville de France qui a été concernée par ce reflux du virus, du coronavirus. Alors où on en est aujourd'hui ? À en croire le collectif Interhôpitaux qui regroupe pas mal de personnels de santé de différents secteurs, des paramédicaux, des infirmiers, des anesthésistes, des chirurgiens, des professeurs, et bien selon ce comité Interhôpitaux, on n'y est toujours pas, malgré les accords du Ségur de la Santé qui a débloqué une enveloppe de 8,8 milliards d'euros. Alors c'est vrai que le chiffre, il paraît impressionnant. Autre mesure, la promesse de créer 15 000 postes, de faire 15 000 embauches, et puis plein d'autres mesures pour faire un choc d'attractivité. Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, alors qu'on se prépare à affronter cette deuxième vague du coronavirus, eh bien aujourd'hui, énormément de personnel de santé de l'hôpital public claque la porte de découragement, d'épuisement. Alors on est là aujourd'hui à la Timone pour en parler et puis pour voir comment est-ce qu'ils gèrent la deuxième vague contre le coronavirus.
Mes chers compatriotes,
Emmanuel Macron,
il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons.
12 mars 2020.
Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché.
Une porte d'attente qu'on passe. Donc là, on va aux urgences. Ah ben, il y a l'unité Covid, là, juste devant nous. Bonjour. Donc vous êtes Marc
Guénier.
D'accord. Et votre...
Je suis chef de service de la réanimation des urgences de l'hôpital de la Timone adulte.
D'accord. Donc là, c'est ici que ça se passe.
Dans cette zone qui donc comprend 10 lits de réanimation et habituellement 11 lits de surveillance continue qui ont été transformés en unités de réanimation, ce qui nous a obligés de fermer 5 lits sur les 11 de l'unité de surveillance continue pour en faire une réanimation dédiée Covid. Il y a 6 lits et qui sont actuellement tous occupés.
D'accord. Et par quel type de profil ? Des personnes âgées, des jeunes ?
Non, c'est des gens qui ont moins de 70 ans largement. Certains ont même moins de 55 ans. Et ils sont donc pour 4 d'entre eux sous ventilation artificielle.
Alors, ce qui m'étonne assez, c'est que c'est relativement calme ici. La deuxième vague, on est en plein dedans. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit
Ça court dans tous les sens ?
Bah, les cours dans tous les sens, non. Enfin, c'est organisé pour recevoir ces patients dans un flux qui est maintenant assez continu. Pour l'instant, on n'est pas totalement débordé avec des patients dans les couloirs. Mais bon, y a quand même un flux important de patients, ce qui fait que forcément, ben, ça ampute sur la ressource réanimation.
Et comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite ou...
Si effectivement la pathologie Covid continue d'augmenter, tout en ayant des flux d'autres patients par ailleurs, on va arriver à un moment où il va falloir faire des choix.
C'est-à-dire ?
Ben, des choix, si on vous propose, je vous cite un exemple, si on vous propose deux patients qui justifient la réanimation, un Covid et un non-Covid, et que vous avez plus qu'une place, qu'est-ce que vous faites ?
C'est-à-dire que vous risquez de vous exposer à des arbitrages
complètement
extrêmement délicats.
Ben, c'est ce qu'on dit depuis maintenant quelques semaines. Enfin, c'est une évidence. Hein. Ça tombe, c'est du bon sens.
C'est d'autant plus dur à accepter que c'est la deuxième vague, c'est pas la première vague. Donc on se dit, mais comment se fait-il que vous allez être contraint de faire des arbitrages alors que on aurait dû tirer des leçons de ça?
Pour arriver à faire ça, donc dans la première phase, il y a eu des créations spontanées de lits de réanimation, mais avec des gens mobilisables dans la mesure où l'activité programmée était arrêtée, ce qui a permis de prendre du personnel sur les blocs opératoires. D'autre part, les gens étaient confinés, donc il y avait moins d'accidents de la route, moins de problématiques, qui a fait que on a pu piocher du monde, soit localement, soit à l'extérieur. Moi, j'ai vu des infirmières, des anciennes infirmières de Réa, qui sont maintenant installées en libéral, qui avaient une activité très réduite, voire quasi arrêtée, et qui nous ont dit, on veut bien vous aider pendant la période, ce qui a permis de faire monter la charge.
Ah, oui.
Et donc, de pouvoir avaler la première vague. La réanimation, c'est une ressource rare. Hein. On a, en France, ça a été dit, on a entre 5 et 6 000 lits de réanimation. Donc on a cette capacité d'accueil. Actuellement, sur Marseille et sur la région, on tient à peu près le choc. Hein.
Donc ça laisse le temps de s'organiser, quoi.
Ça laisse le temps de s'organiser à peu près correctement, sachant qu'on va avoir nos limites, puisque on n'est pas confiné et que les ressources sont celles que nous avons d'habitude. Et qu'on ne peut pas piocher ailleurs.
Ah ouais. Les ressources, donc, en termes de lits, en termes de personnel.
En termes de personnel, effectivement.
D'accord. Donc là, en face de nous, c'est la zone rouge. On ne peut pas y accéder.
Éventuellement. Ouais. On peut aller dans la zone. Hein. Donc, on ne va pas rentrer dans les chambres. Hein. C'est un couloir.
Ah, voilà, on pénètre.
Voilà, donc, par exemple, là, c'est un patient qui donc, vient d'être sevré du respirateur. Ouais. Et qui maintenant est sous oxygène à fort débit, et on lui a arrêté la machine pour respirer.
D'accord. Ouais. Donc là, il était... vous appelez ça comme un box, c'est ça ?
C'est ça, un box de réanimation. Par contre, ce monsieur, il est sous respiration artificielle avec une sonde d'intubation et un ventilateur qui l'aide à respirer.
Ouh là là, c'est impressionnant toutes les machines là.
Donc ça, c'est pareil, c'est une patiente qui est sous respiration artificielle, c'est la machine qui l'aide là actuellement. Donc,
Oh là là.
Ouais. Là, elle est endormie et elle est sous sédation et c'est la machine qui l'a fait respirer.
D'accord. Et tout est suivi à l'extérieur, sur vos écrans.
Oui, c'est sur la centrale.
Ouais. Ah, le monsieur, il est sur le ventre.
Il est sur le ventre, oui.
Parce que les autres patients étaient sur le dos.
Il y en a certains qui ont été sur le ventre. Ce monsieur, là, il a été remis sur le ventre pour, on va dire, essayer de rouvrir un peu son poumon pour essayer de l'oxygéner au mieux possible.
D'accord.
On va aller dans l'autre zone.
Ouais, je vous montre comme ça, vous aurez une idée. Donc là, on sort de la réa Covid.
De la réa Covid, on passe dans la réa dite, enfin, normale. Ouais. Réa non Covid.
D'accord. Bonjour.
Bonjour. Là, c'est un box vide. Ouais. Donc voilà un box de réanimation tel qu'il est aux normes habituelles d'un lit de réa. Voilà, il faut compter à peu près un investissement par lit en matériel et de l'ordre 150 et 200 000 euros le lit.
Quand même.
Ah oui, mais c'est énorme.
Les personnels pour ces services-là, il ne suffit pas d'appeler une intérim. C'est un savoir-faire, ça ne peut pas se remplacer du jour au lendemain.
Une infirmière de réanimation, c'est une infirmière qui a sa formation de base, mais c'est aussi quelqu'un qui doit être formé à la réanimation.
Oui, c'est-à-dire que sa formation de base, on va dire, c'est 3 ans, 3 ans et demi.
Ça,
et puis
ça.
Ensuite, elle doit se former sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un côté pratique.
Par rapport à d'autres pays, par exemple, pour citer un exemple, en Suisse, il y a une formation spécifique. de réanimation qui dure 2 ans en plus des études d'infirmière, ce qui n'est pas le cas en France.
Vous avez suivi les annonces du Ségur, donc notamment cette promesse de création de 15 000 postes, oui, plus de 8 milliards de...
Comme vous l'avez dit, créer des services de réanimation, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Vous avez vu la problématique technique. Former des gens à la réanimation pour faire un médecin réanimateur, il faut quand même aller, il faut 10 ans. Donc ça ne va pas se trouver dans une pochette surprise, ça. C'est pas possible.
Ouais, c'est-à-dire que les annonces de création de postes par le Ségur, c'est bien, mais ce sera dans 10 ans, quoi. Enfin, ce ne sera pas pour demain.
Ce sera pas pour demain.
Donc on est obligé de faire du rafistolage, alors.
On fait face et on essaie de s'organiser au mieux pour que les choses se passent le moins mal possible ou le mieux possible. Tout dépend comment on voit le verre, à demi-plein ou à demi-vide.
Fermeture.
Voilà, risque de saturation. Manque de lits, manque de personnel. Non, non, ce que vous entendez là ne date pas du mois de mars. C'est pas la panique de la première vague, c'est celle-ci, c'est celle qui vient. Du côté hôpital public, vous l'entendez, du côté des soignants, on se prépare, c'est reparti pour un tour. Pas vraiment, vraiment. Les soignants ont quitté le navire. On parle de départ massif vers le privé ou vers autre chose. Des lits restent fermés, faute de personnel. 30% des postes de médecins hospitaliers n'ont pas trouvé preneur. Alors, mais attendez, il y a eu le Ségur de la santé. 9 milliards ont été promis. On ne sait pas ce que ça veut dire, des milliards. Mais enfin, 9 ont été promis. 15 000 embauches, une nouvelle organisation, fini la bureaucratie, 183 euros d'augmentation pour chacun, un véritable choc d'attractivité. Ouais, flop. Trop de promesses, trop de mépris, trop de mensonges. Pourtant, même les plus méfiants y ont cru lorsque Macron a dit « l'hôpital, c'est une richesse ». Ce n'est pas un coup. Et il y avait une occasion formidable, au mois de mai, au printemps, de changer le logiciel, l'hôpital public, devenant en effet vraiment pour tous une richesse et non pas un coup. Qui porte la responsabilité de ce mensonge? Qui porte la responsabilité des morts à venir? Ce sera d'abord les fragiles, les vulnérables, et puis les autres.
Fermeture.
Fabienne Aymar.
C'est ça, c'est moi.
Alors vous venez de lâcher un gros carton sur le sol, qu'est-ce que c'est?
C'est les masques.
Ah, les masques chirurgicaux?
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc finalement, il y en a là?
Alors honnêtement, oui, là, on a ce qu'il faut.
Donc vous êtes cadre de santé à l'APHM, donc Assistance Publique Hôpitaux de Marseille.
Tout à fait, oui.
Donc là, on est dans votre bureau.
Oui.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Alors moi, qu'est-ce que je trouve que ça fait 20 ans que je fréquente les hôpitaux? Je trouve que la situation s'est quand même beaucoup dégradée. Et là, ce qui est compliqué, c'est de voir le temps qu'on peut passer auprès de notre patient qui se réduit de plus en plus au profit de choses qui sont chronophages, mais qui sont finalement peu intéressantes. Un truc tout bête, on cherche beaucoup de draps. Alors, vous allez passer une demi-heure, trois quarts d'heure à chercher des draps. Des choses comme ça, qui sont très très chronophages et encore une fois sans aucun intérêt. Et puis petit à petit, quand on n'a plus aucune reconnaissance du travail fait, qu'on nous en demande de plus en plus, à un moment donné, vous lâchez la rampe, quoi. Les patients sont toujours pris en charge de façon plus que correcte et de manière le plus efficiente possible. Mais ça veut dire que derrière, ce sont des équipes qui ne s'impliquent plus dans les projets, qui vont plus faire l'effort de revenir pour des formations, etc. Et tout ça tue l'hôpital public petit à petit. On a perdu, on a le sentiment de perdre le sens du travail. Et ça, c'est dur. Il y a beaucoup de personnel, si elles avaient les moyens d'arrêter de travailler, de faire complètement autre chose, elles le feraient, quoi.
Vous, Fabienne, vous êtes infirmière.
Je suis infirmière puéricultrice. Moi, ça fait 20 ans que je suis infirmière puéricultrice et ça fait 5 ans que je suis cadre de santé.
Et est-ce que vous aussi, comme vos collègues, vous avez été tentée d'abandonner de...
Oui. J'avoue que j'ai à un moment donné, j'ai pensé à partir pour faire la formation en école d'infirmière. Je suis restée, Mais dans les conditions actuelles, je ne me vois pas encore faire ça pendant 20 ans. Quoi. Parce que des fois, en tant que cadre, j'ai vraiment le sentiment que je suis maltraitante envers mes équipes. Et ça, c'est compliqué de se dire qu'on est maltraitant avec les gens qui travaillent avec vous.
Comment ça ?
Quand je suis obligée, quand je n'ai pas suffisamment de personnel, de laisser du monde en sous-effectif. Alors, et que vous savez très bien que le travail va se faire, même si elles sont en sous-effectif. Oui, c'est maltraiter les gens. Elles ont travaillé dans l'urgence, elles ont travaillé vite, elles n'ont pas pris le temps. Et ça, je leur impose. Et oui, je me sens maltraitante. Je me sens maltraitante. C'est dur à dire, hein, mais c'est une réalité.
Qu'est-ce qui vous donne la flamme toujours ? Qu'est-ce qui... donc l'espoir que ça puisse s'améliorer, mais en même temps...
Les deux choses qui font tenir l'hôpital public, les patients et les collègues. Vous ne lâchez pas pour les patients et puis vous ne lâchez pas pour vos collègues. Voilà.
Les applaudissements du président pour les soignants. Image forte, image inédite, un 14 juillet. Hommage de la nation tout entière à ces soignants, ces hommes, ces femmes en blouse blanche. Moment terriblement émouvant ce matin sur la place de la Concorde, avec des ministres qui avaient les larmes aux yeux. On pense notamment à Olivier Véran. Les larmes aux yeux partagées par ces soignants que vous voyez à l'image, qui ont tout donné pendant ces 8 semaines.
Ouverture des portes, 9e étage.
Professeur Jouve.
Oui.
On est dans votre bureau, ici, à l'hôpital, et j'aimerais attirer votre attention sur une chose que vous avez dite lors de la conférence de presse du collectif Inter-Hôpitaux du 6 octobre 2020, parce que vous en êtes de ce collectif. Vous dites « Les moyens de pérenniser le meilleur soin au meilleur coût pour tous n'ont pas été mis en œuvre », en référence au Ségur.
Oui, cette expression, en fait, c'est une expression d'André Grimaldi qui est très ancienne. C'est ce qu'on cherche à restaurer au niveau de l'hôpital public, puisque c'est ce que l'hôpital public donnait jusqu'à il y a peu de temps et jusque même actuellement continue à donner à tout le monde. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est de plus en plus difficile et que tout doucement, c'est quelque chose qui va disparaître. Donc notre préoccupation, c'est que au-delà des problèmes circonstanciels du Covid, l'hôpital a été délaissé et mis à l'abandon depuis à peu près 3 gouvernements de manière accélérée, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que le gouvernement reproche à l'hôpital public de coûter de l'argent, de ne pas être aussi performant et de ne pas avoir un esprit d'entreprise aussi affûté que celui des cliniques privées. C'est là qu'on touche le point clé de l'incompréhension entre les gouvernants et l'idée qu'il faut savoir se faire de l'hôpital public, en tout cas dans le modèle français.
Vous, ici, à Marseille, vous êtes les premiers à reprendre le combat, j'ai envie de dire, parce que c'est le chef de l'État qui disait qu'on est en guerre, à reprendre le combat face à cette deuxième vague du coronavirus. Et les moyens dans tout ça ? Parce qu'on se souvient, vous vous souvenez de toutes les déclarations qu'il y a eu des responsables politiques, le chef de l'État, bien sûr, Édouard Philippe, Castex.
Les pouvoirs publics sont par nature peu enclins à aider l'hôpital public en général. Sur le Covid, ils ont eu peur. Il faut bien voir qu'à la première vague, ils ont eu peur parce qu'ils ont été complètement débordés. Nos directions, nos agences régionales de santé ont été complètement débordées. Il y a un moment où ils ont dit aux réanimateurs qu'est-ce qu'il vous faut ? Uniquement parce qu'il y avait une peur de l'État qu'il y ait une catastrophe sanitaire qui s'installe en France. Mais c'est des rustines. Enfin, il faut bien voir que c'est des rustines. C'est-à-dire qu'il y a tout à reprendre. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit, on va s'occuper de vous, il va y avoir les Ségures de la santé, on va tout gérer, rien n'a été géré. Il y a eu quelques améliorations salariales, et encore relativement faibles, même si l'effet annonce fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Mais au niveau des lits qui étaient fermés, qui ont ouvert pour le Covid, mais qu'on a refermé juste derrière la première vague, au niveau des personnels qu'on a engagés de manière temporaire, mais qu'au bout de leur contrat, on a viré au début du mois de juin, alors que déjà on commençait à parler de deuxième vague susceptible de survenir, il n'y a eu aucun travail de fond. C'est-à-dire que le Ségur de la Santé n'a pas parlé des fermetures de lits, il n'a pas parlé de l'attractivité des carrières qui font que les médecins restent à l'hôpital et ne fichent pas le camp dans le privé. Pareil pour le paramédical, tout ceci n'a pas été évoqué. Le travail de fond qui devait être fait sur comment gouverner l'hôpital, est-ce qu'il faut que des administratifs comme c'est aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut des administratifs mais aussi des médecins, des paramédicaux, des usagers pour arriver à avoir une gestion cohérente, ce travail n'a pas été engagé, ce n'a été qu'un effet d'annonce. On se rend bien compte que les choses ne se sont absolument pas modifiées et qu'on se demande même dans quelle mesure il n'y a pas un certain cynisme de la part du gouvernement qui dit ben, avec la crise économique qui va arriver, la population ne va pas être vraiment solidaire des hospitaliers qui, eux, gardent leur boulot alors que ben, effectivement, il y a beaucoup de corps de métier qui vont souffrir. Donc, on se demande même s'il n'y a pas un certain cynisme de la part du gouvernement à ce niveau-là.
Est-ce qu'il n'y a pas du cynisme de la part des autorités ? Le professeur Jean-Luc Jouve se pose la question. Il n'est pas le seul sur place à Marseille, à l'hôpital de la Timone. Alors on les quitte, on les laisse. Ils vont faire face, eux aussi, comme ailleurs en France, à la deuxième vague du coronavirus. Le pic n'est pas encore atteint, mais déjà, eux sur place à la Timone, ils sont épuisés, mais vraiment épuisés. Alors on va maintenant à Paris, juste devant le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Il conseille le gouvernement sur l'orientation des politiques publiques. Il a donc un rôle consultatif et symbolique. On est là parce que le CESE doit présenter ce mardi 13 octobre un rapport intitulé « L'hôpital au service du droit à la santé ». Alors en tant que journaliste, nous, on a eu accès à ce rapport et le CESE demande un moratoire sur les fermetures de lits. Il réclame aussi des moyens supplémentaires pour redonner de l'attractivité au secteur. Des personnels de santé ont fait le déplacement pour écouter les conclusions de ce document, notamment Thomas Laurent, infirmier à Lyon, et Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Ils sont tous les deux membres du collectif Interhôpitaux.
Alors Thomas Laurent, t'es un futur ex-infirmier. C'est-à-dire que toi, tu décides de claquer la porte de l'hôpital public.
Voilà, c'est ça. J'ai effectivement défendu l'hôpital public au sein des collectifs. Et cet été, devant l'absence de résultats probants à l'issue des négociations du Ségur de la Santé et un été difficile au niveau professionnel, j'ai décidé d'arrêter et d'entamer une reconversion. Je suis rentré à l'hôpital à 19 ans, donc ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis dans les murs de l'hôpital. J'ai commencé, on va dire, tout en bas de l'échelle avant d'arriver à faire des formations.
Pourquoi tu arrêtes ?
J'arrête parce que actuellement c'est plus possible de faire son travail correctement et le fait de revoir ses ambitions à la baisse chaque jour de travail, pour moi c'est une perte de sens et je considère que mon travail ne me satisfait plus, la façon dont je le fais ne me satisfait plus, donc autant changer.
Donc tu as 35 ans et après toutes ces années où j'ai envie de dire t'as mouillé la blouse pour la mériter, pour pouvoir la porter, tu décides de la raccrocher quoi.
Oui, bah je suis rentré.
Parce que toi, à la base, t'es rentré, c'est quoi ? C'est mission de service public, l'intérêt général ?
Alors, je suis rentré parce que j'ai découvert l'hôpital lors d'un travail d'été après le lycée, et c'est un environnement qui m'a plu. Et le service public était un choix. J'ai pu avoir l'occasion d'exercer dans des structures privées, qu'elles soient lucratives ou non lucratives. Mais vraiment, le choix de l'hôpital public, qui ne faisait pas de différence entre ses patients, c'était un choix. Et ce socle de l'hôpital public, qui soigne tout le monde au meilleur coût, il est en train d'être rogné de plus en plus et participe à mon départ. Il est possible que je continue un petit peu à exercer, hein, le temps de, on va dire, de me retourner. Je pense également m'inscrire à la réserve sanitaire, hein, puisqu'en cas de gros confinement, même dans un futur hypothétique où je serai libraire, si on se retrouve en confinement général et que tout est fermé, je me mettrai à disposition. Mais J'ai vraiment aucun regret ni aucune remise en question de cette décision maintenant qu'elle est actée. Quel que soit le niveau de la pandémie, puisque on n'a pas eu les réponses après une première vague, donc il va y avoir des morts. Ça ne sera pas ma responsabilité, même si peut-être que j'aurais pu faire un peu plus pour aider l'hôpital. Mais on est vraiment sur un échec d'une politique. Et donc les conséquences qu'ils vont en tirer, j'ai bien conscience que ce ne sera pas ma responsabilité à moi, mais vraiment celle du gouvernement qui n'a pas été à la hauteur.
Aujourd'hui, là, tu vas quitter l'hôpital, mais ton salaire est de combien ?
Alors j'étais à peu près à 1 700 € de net, sans prime de dimanche, donc il faut savoir que ça peut varier de quelques centaines d'euros, mais que c'est aléatoire en fonction du planning.
1 700 net, hors prime, après 10 ans depuis que tu as ton diplôme d'infirmier, quoi.
Oui.
Tu es à quel hôpital à Lyon ?
Je suis à l'hôpital Édouard Herriot.
Et à l'hôpital Édouard Herriot, tu es le seul à claquer la porte ? Il y en a eu d'autres avant toi ?
Alors, il y en a eu d'autres avant moi. J'ai envie de dire qu'il y en a d'autres en même temps et malheureusement, il y en aura sûrement d'autres après. Je sais qu'à l'issue de la première vague, les syndicats ont connu des augmentations de demandes sur comment interrompre son contrat pour pouvoir quitter l'hôpital. Ils ont bien vu que c'était des demandes qu'ils n'avaient pas aussi nombreuses qu'avant, mais on n'a pas de chiffres exacts.
Pourtant, quand on regarde les conclusions du Ségur, 8,8 milliards d'euros pour la revalorisation des métiers, des établissements de santé et des EHPAD, pour l'attractivité de l'hôpital public, ils veulent un fameux choc d'attractivité. Et puis, il y a eu aussi la promesse de création de 15 000 postes. Je veux dire, c'est pas rien ça, ou alors on n'a rien compris.
Alors non, effectivement, alors c'est une façon de présenter les chiffres. 8 milliards, c'est vrai que c'est une grosse somme, hein, mais il faut savoir que dans le budget de la santé, c'est plus de 200 milliards. C'est une goutte d'eau, 8 milliards. Ça, on est nombreux hein, dans les soignants et les non-soignants. Il n'y a pas que des soignants à l'hôpital qui vont bénéficier de cette petite revalorisation salariale qui reste en dessous de ce qu'on demandait pour être dans la moyenne des pays riches et qui ne suffit pas à rattraper le gel de 10 ans de points d'indice. Ensuite, les 15 000 postes, c'est pareil. Il faut bien les différencier. Il y a d'une part 7 000 postes qui seront effectivement créés, qui n'existaient pas, et 7 000 postes qui n'étaient pas pourvus mais qui existaient déjà. Et ces postes, on n'arrivait pas à pourvoir par manque d'attractivité et on n'est pas sûr qu'on va arriver à les remplir maintenant. Ensuite, 7 000 ou même 15 000, ça fait entre 4 et 8 personnes par hôpital. C'est rien. Nous, rien qu'à Lyon, on est plus de 20 000 employés.
Il fallait évidemment écouter les soignants.
Olivier Véran.
Il fallait aussi apporter des réponses concrètes à des attentes.
Ministre de la Santé.
Qui, pour certaines d'entre elles, étaient déjà anciennes.
21 juillet 2020.
Les accords de la santé ont donc été signés. Dans le dialogue, dans la concertation, des sommes sans précédent ont été mises sur la table. Nous avons voulu changer de braquet et accélérer dans tous les domaines de la transformation de notre système de santé.
Olivier Milleron, donc vous êtes en poste, médecin à l'hôpital Bichat à Paris. Là-bas, si j'y suis, on est venu vous voir plusieurs fois pendant la première vague pour le Covid. Là, on est en pleine deuxième vague. Donc, question toute simple, Olivier Milleron, l'état de l'hôpital public aujourd'hui, c'est quoi ?
Eh bien, c'est pire. Et aujourd'hui, il y a un sentiment de trahison et de colère qui est énorme. Et nous, on est très inquiets parce que l'état d'esprit au travail est super important. Et l'état d'esprit, il est très mauvais. Et les gens s'en vont de l'hôpital. C'est-à-dire que finalement, il y a eu quelques recrutements. Là, moi, l'hôpital où je travaille, le gros hôpital nord de la PHP.
Hôpital Bichat.
Ouais, alors avec les autres hôpitaux, enfin le gros centre, là, on a réussi à recruter 192 infirmières depuis le Ségur, sauf qu'il y en a 192 qui sont partis. Donc on revient au déficit qu'on avait, c'est-à-dire il y a au moins 100 postes d'infirmières qui sont vacants dans ce centre hospitalier, avec donc des lits fermés, hein, donc l'offre de soins rendue à la population est bien en dessous de ce qu'il devrait être.
Donc du coup, ce qui s'est passé juste après la première vague, ce fameux Ségur, ces accords, le Ségur de la santé signé par UNSA, par CFDT, CFTC et FO, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, et ça fait partie de ce sentiment de trahison, c'est-à-dire que il y a eu des augmentations de salaire, certes qui, si on fait le calcul de ce que ça va coûter, c'est beaucoup d'argent, sauf que c'est un rattrapage de 10 ans de disette, et qui est un rattrapage qui est bien en dessous de ce que nous on demandait pour rattraper la moyenne de l'OCDE. La revendication qui avait été votée en Assemblée Générale pour le collectif Interhôpitaux, c'était 300 euros pour tout le monde. Il faut savoir que le rattrapage moyen pour une infirmière par rapport à la moyenne de l'OCDE, hein, je ne parle pas pour être exigeant et bien payer les gens dans ce pays en disant que la façon dont on paye les gens qui s'occupent des plus faibles, c'est quelque chose qui pourrait être important dans une société civilisée. Juste rattraper la moyenne, c'est à peu près 450 euros par mois qu'il faudrait. Voilà. Donc nous, on demandait 300 et là, ils ont donné 180. Ça ne fait pas un choc d'attractivité. Donc ça, c'est sur les salaires. Et puis après, il y a tout le reste. C'est-à-dire que on s'en va aussi parce qu'on a l'impression qu'on fait mal son travail parce qu'on n'a pas les moyens de bien le faire. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de le faire parce que il faudrait qu'il y ait un patient, un symptôme, un acte, un hôpital entreprise. Et ça, les gens n'en peuvent plus. Et ils ont bien compris qu'après un petit espoir, une petite modification dans le discours du personnel politique au moment du Covid, en fait, on est revenu au monde d'avant. Enfin, c'est marrant, comme très vite on a oublié, hein, mais à quel point on a parlé du monde d'après, que ça allait changer, qu'on n'allait pas reprendre comme avant. Et en fait, on est revenu complètement au monde d'avant. Et puis, il y a le problème du pouvoir, c'est-à-dire qui a le pouvoir dans l'hôpital. On est à plus de 10 ans de pouvoir donner au directeur de l'hôpital avec comme feuille de route uniquement de faire des économies et pas de faire du soin. On parle pas de soin à l'hôpital, on parle de business plan, on parle de part de marché. Voilà, et ça, les gens n'en peuvent plus. C'est-à-dire que c'est plus tout à fait compatible pour beaucoup de gens avec leurs principes et ce qui les a amenés à faire ce métier. Donc aujourd'hui, où on en est que les gens qui sont au pouvoir, ils viennent pas, c'est pas des perdreaux de l'année. Macron, il a été conseiller du président Hollande et il a été ministre des Finances. Donc il a fait voter les budgets et en particulier les budgets de la Sécurité sociale. Et notre ministre Olivier Véran, il était au cabinet de Marisol Touraine. Et il a été à l'Assemblée rapporteur aussi des précédents budgets de la Sécurité sociale. Donc ils connaissent le sujet, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils agissent très vite. Et soit ils disent aux Français, ben, on va vers un système privé à l'américaine, soit on renfloue l'hôpital public, mais il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Et ça, il n'y a aucune discussion politique là-dessus. Ils n'ont aucun mandat politique pour supprimer l'hôpital public et passer à un système privé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de se mobiliser avec les citoyens pour imposer aux politiques et bien leur faire comprendre que faire une croix sur l'hôpital public en France, ça va leur coûter très cher politiquement.
Alors là, ça sonne. Ça va être le début de la présentation du rapport en séance plénière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire selon vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préconisez pour le collectif Interhôpitaux et puis en tant que médecin?
Alors nous, on préconise... Alors on a beaucoup travaillé hein, sur le... Nous, on a une force de proposition au collectif Interhôpitaux. Les gens ont beaucoup travaillé. Et en gros, les quatre axes, c'est de dire bah, il faut des salaires corrects pour que les gens... nous, on a vu au moment des grèves de transport, hein, les infirmières, les aides-soignantes, elles habitent à 2 heures de transport et quand il y a les grèves, elles dorment à l'hôpital parce que c'est pas possible, quoi. Donc il faut qu'on puisse habiter à côté de son hôpital quand on travaille dans une grande ville. Donc il faut augmenter les salaires de façon importante. Il faut que le financement global de la santé en France permette tous les ans d'augmenter les charges des hôpitaux qui augmentent mécaniquement et donc il faut pas que chaque année on nous demande de faire des économies dans les hôpitaux. Il faut que chaque malade soit vu comme un patient et pas comme un client et qu'on ne nous demande pas de faire un maximum d'argent et qu'on ne nous demande pas de choisir les malades rentables et les malades pas rentables. Et puis surtout, il faut rétablir la confiance et il faut changer le discours sur l'hôpital public. Moi, depuis que je travaille à l'hôpital public, en gros, on m'explique que je coûte trop cher. Et c'est insupportable. Je veux dire, voilà, les gens qui travaillent à l'hôpital, ils font la permanence des soins, c'est-à-dire qu'ils sont là les week-ends, ils font des gardes, ils font des astreintes, ils reviennent sur leurs vacances. Là, il va y avoir des vacances probablement annulées dans les hôpitaux parce qu'il faut, et il n'y a pas besoin, comme fait Martin Hirsch, de faire une circulaire. Les gens l'ont toujours fait et ils ont toujours sacrifié leur week-end, leurs vacances pour revenir à travailler à l'hôpital public. Les gens l'ont toujours fait normalement, ça fait partie du boulot. Mais le jour après avoir fait tant de promesses et avoir l'impression de s'être fait cracher au visage, la seule solution, c'est vraiment de changer de logiciel sur l'hôpital et de dire ce qu'avait dit Macron, hein, c'est que c'est une richesse et que c'est pas un coût. Macron, quand il avait fait un plan sur les start-up, il avait dit « je rêve que dans ce pays, les enfants rêvent de devenir milliardaires », je crois. Et ben moi, j'aimerais bien qu'ils disent aujourd'hui « je rêve que dans ce pays, les enfants ils décident de devenir infirmiers comme Thomas, assistante sociale, aide-soignante, brancardier, manipulateur radio, chirurgien, réanimateur ». Voilà, c'est une des institutions à laquelle les Français sont les plus attachés. Ils ont confiance dans l'hôpital public, c'est quelque chose qui a sauvé des vies de façon énorme, qui est très en difficulté, il faut que ça devienne une priorité pour la nation. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont un plan B, Et à ce moment-là, la suspicion, c'est effectivement qu'ils veulent faire tomber le système de protection sociale à la française pour... Le MEDEF l'avait dit, hein, qu'ils voulaient remettre en cause le programme du Conseil national de la résistance. Est-ce qu'ils veulent faire tomber le système de protection sociale à la française pour aller vers un système confié aux assurances privées? Il y a une grosse suspicion aujourd'hui, parce que tout pousse à dire comment ils ont pu gâcher cette possibilité de reprendre l'élan qu'il y a eu au moment du Covid sur l'hôpital public pour le sauver et recréer quelque chose de fantastique.
Alors voilà la question de fond hein, que soulève le collectif Inter-Hôpitaux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que l'hôpital public va perdurer? Est-ce qu'on va le voir disparaître? C'est la question de fond. Du coup, le collectif Inter-Hôpitaux, avec la CGT et d'autres collectifs de soignants, tirent encore et toujours la sonnette d'alarme. Et ils appellent à participer ce jeudi 15 octobre à une journée d'action à travers la France. À Paris, un rassemblement est prévu devant le ministère de la Santé. Hôpital public, la saturation. C'était un reportage de Dilatébi, à la réalisation Sylvain Richard et Jules Cros. Et toute l'équipe attend vos réactions sur le répondeur au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37 ou sur la-bas.org.
Là-bas, j'y suis.